Chapitre 66. Yuna fonce sur les routes étroites bordées de grandes villas. Le sol gronde sous ses pneus. Des gerbes de neige jaillissent dans le faisceau bleu du gyrophare. Il aperçoit les traces de pneus devant lui. Un dérapage, un impact contre une poubelle. Il relâche légèrement la pédale, coupe le virage et accélère à nouveau. Tout semble aller étrangement vite, comme souvent quand le destin bascule en un fugitif instant. Presque surnaturel et en même temps d'une banalité crue. Au moment où Petrus Litt comprend l'origine du raclement métallique, un coup de hache venu de l'arrière lui fend le crâne. Il est déjà mort quand un pied le pousse brutalement dans le dos et qu'il tombe vers l'avant. « Pingu !» Danny se retourne. Devant lui, se tient une silhouette ensanglantée aux cheveux longs et blonds. Il veut lever son arme, mais la hache atteint son avant-bras. Sa main, tranchée net, tombe au sol avec le pistolet. Des jets de sang jaillissent de la plaie. La hache s'élève à nouveau. Danny recule, plonge en arrière. Le tranchant passe juste devant son visage et s'enfonce dans le mur. Il tourne les talons, court hors de la chambre en serrant son bras mutilé contre lui. Il trébuche sur les serviettes au sol, heurte un miroir et chancelle au milieu des éclats de verre brisés. Il traverse le vestibule, franchit la porte d'entrée arrachée et se jette dans la neige épaisse. L'air glacé lui déchire les poumons. Son champ de vision se rétrécit. Il doit s'arrêter. Il tousse et halète en se traînant péniblement jusqu'à la voiture, puis s'effondre dans la neige.
« Je peux pas mourir. Je peux pas. »
murmure-t-il. De ses doigts tremblants, il parvient à enlever sa ceinture, l'enroule deux fois autour de son bras et la serre au maximum pour ralentir l'hémorragie. Il entend des pas s'approcher et retient son souffle. La tueuse est là, devant lui. Danny se jette à genoux, serrant sa main mutilée contre son torse. Il supplie.
« S'il vous plaît, j'ai pas vu votre visage. Vous n'avez pas besoin de me tuer. J'ai rien à voir avec ça. »
Alors qu'il s'approche de la maison, Yuna apprend que le contact avec ses collègues a été rompu. En descendant la pente, il frôle une petite rambarde sur sa gauche. La voiture de la veuve n'est plus là. Yuna ralentit, s'engage sur l'allée et demande immédiatement des renforts aériens et la mise en place de barrages routiers. Il se gare derrière une voiture de police et sort dans le froid, son Colt Combat à la main. Un agent en uniforme gît dans la neige ensanglantée, à côté de sa voiture. Son corps tressaute encore légèrement malgré la décapitation. Des sirènes retentissent au loin. Le doigt sur la détente, Yuna se dirige vers la porte fracassée. Du sang clair mêlé à de la neige forme des éclaboussures sur le marbre gris. Son arme pointée devant lui, il suit les traces. Il inspecte chaque recoin, traverse le vestibule, entre dans un dressing, ouvre les penderies, le placard à linge et écarte les piles de serviettes. Au sol, un homme sans tête est étendu sur le dos. Sa chemise est arrachée. Une longue entaille verticale va du sternum au nombril. Le deuxième policier gît face contre terre. Il a été frappé à l'arrière du crâne. Yuna entre dans la salle de bain, balaye du regard la vasque, la baignoire, la douche. Une porte discrète dans le mur en pierre calcaire dissimule les toilettes et le bidet. Il revient dans l'entrée avec la même rigueur tactique. Puis s'avance vers le vaste séjour et envoie un point rapide au central. En haut de l'escalier, il découvre une immense cuisine. Une caméra est posée sur un trépied, entourée de projecteurs de studio. Il entend deux voitures de police arriver. La neige se soulève sur la grande terrasse. Yuna arrive dans un salon. Quatre canapés blancs encerclent une table basse en marbre gris. Un écran géant couvre un mur. Une forte odeur de vomi sature l'air. Derrière un des canapés, il trouve Nina Silverstedt, recroquevillée, les bras serrés autour de ses jambes repliées. Son buste oscille lentement comme si elle était en transe. Il lui parle doucement, lui explique qu'elle est désormais en sécurité, et elle laisse échapper des gémissements entrecoupés de sanglots répétitifs. Yuna l'enveloppe dans un plaid, la tient longuement contre lui, jusqu'à ce que ses tremblements se calment un peu, puis l'emmène jusqu'à une ambulance. Ils ont bien failli attraper la tueuse, cette fois. Yuna est dans sa voiture, sur le chemin du retour. Le central l'informe que l'Opel du suspect n'a pas encore été localisé. Le réseau de tunnels de Norra-Lenken est trop vaste et trop complexe. 20 voitures de police participent à la traque, 3 hélicoptères survolent la zone et des opérateurs examinent toutes les images des vidéosurveillances. Il prend un appel d'Agnetta et l'informe du nouveau meurtre, évoque les entailles sur les bustes.
« J'ai l'impression que tout s'accélère, » dit-elle.
« Parfois, les tueurs en série deviennent comme un feu alimenté par le vent. Trop vaste, incontrôlable. »«
J'ai parlé à Hugo, » dit-elle. « Il accepte une 3e séance d'hypnose, mais pas une de plus. Et Bernard donne son accord, à condition que je sois présente. »«
Merci pour votre aide.
Mais vous ne devez pas le brusquer. Il est traumatisé. »
L'idée n'est pas qu'il aille encore plus mal.
Je suis d'accord. J'organise ça avec Eric Maria Bark, dit Yuna.